avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il a organisé au niveau chanson, louange, etc. Zacharie 14, verset 16-17. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Zacharie 14, 16-17. « S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. » Donc on voit que les rendez-vous de Dieu, Dieu veut arroser son peuple. Mais Dieu, pour ça, il a préparé des rendez-vous. Et Jérusalem et Israël, c'est un des lieux de rendez-vous de Dieu pour que toutes les nations le louent. Un jour, ça se passera pleinement. Mais déjà aujourd'hui, quand on le fait, on annonce ce qui vient. On annonce cette grande fête où toutes les nations viendront. Mais déjà, c'est le cas. Et ça, c'est absolument unique. Il y a 50 ans en arrière, vous auriez dit que toutes les nations montent à la fête des tabernacles. On vous aurait dit, mais ça ne va plus. Israël n'existait pas 70 ans. Donc, il y a quelque chose qui se passe que Dieu est en train de faire qui est absolument étonnant. Le peuple d'Israël, comme nous, on est appelé à être un peuple de la mémoire. Un peuple qui se souvient. Et ce souvenir, ce n'est pas seulement évoquer le passé. Hein. Ce souvenir, c'est faire revivre le passé, le réactualiser. Hein. Dieu est celui, je rappelle, qui était, qui est et qui vient. Donc voilà, et ce qu'il fait, il peut le faire encore. Donc il y a vraiment un sens prophétique, spirituel. Donc quand il dit, vous sonnerez du shofar et vous serez présent au souvenir de l'Éternel. Donc la fête du souvenir, c'est aussi un des noms de la fête qu'on vit aujourd'hui, de Rosh Hashanah, et l'importance de ce souvenir, eh bien, elle ne peut que nous parler à nous. La fête des chauffards. Donc, le chauffard, c'est un instrument à la fois qui peut annoncer, par exemple, associé à la guerre, un signal de combat, signal de réveillé. Par exemple, ce matin, Thibault a eu son réveil. C'est une sorte de chauffard personnel, et après 2 heures de sommeil, ça l'a réveillé. Le chauffard de Dieu, c'est le chauffard qui est là pour nous réveiller, nous relever. C'est associé donc à la guerre, c'est associé au réveil, c'est associé aussi à quelque chose de tout à fait particulier qui est le pardon. Parce que cette pièce de bélier, là, pour la faire, il a fallu qu'un bélier meure. Et Abraham, lorsqu'il est prêt à sacrifier son fils, vous savez qu'il y a un bélier qui s'est pris les cornes dans les épines, dans les broussailles. Et c'est ce bélier qui a été sacrifié. Et donc, quand l'ennemi entend le son du chauffard, il se rappelle une vieille histoire de plusieurs milliers d'années où un sacrifice a été fait qui annonce le plus grand des sacrifices, qui est celui de Jésus. Aucun homme ne peut tailler un truc pareil. Personne n'y a touché. C'est naturel. Ça, c'est le chauffard de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, c'est mon sacrifice à moi. Et ça nous parle du sacrifice d'Isaac, du Dieu qui a pourvu. Mais en même temps, ça nous parle du pardon, du sacrifice de Jésus et de son pardon en raison de son sacrifice. Donc c'est vraiment une annonce de victoire. Et ce son du chauffard, chez les Juifs, dans 10 jours, il va retentir à nouveau pour proclamer la victoire sur le péché, car Dieu a pardonné et une vie nouvelle peut commencer. Donc le nouvel an juif, c'est aujourd'hui. Et ce nouvel an, c'est Rosh Hashanah, la tête de l'année, quelque part. C'est le nouvel an juif. Et d'ailleurs, les présidents, Macron, là, il était chez la délégation juive là, il y a quelques jours pour participer à cette fête-là. Et cette fête, on voit dans Néhémie chapitre 8, versets 11 et 12, c'est à cause de ce texte-là que la date a été changée et a été mise là maintenant, ce qui est l'équivalent de septembre. Pourquoi ? Parce que dans Néhémie 8, il y a tout un réveil spirituel du peuple entier d'Israël qui retourne à la Torah. Et donc Rosh Hashanah, c'est vraiment cet appel de Dieu à retourner à la Torah. Donc je rappelle au niveau de l'Église, la lecture biblique journalière, reprenez, si vous avez peut-être abandonné ou lassé, reprenez ces lectures. Quand une Église lit en même temps les mêmes passages, il y a quelque chose de très fort. Donc reprenons ça, c'est le temps de Néhémie, le temps du réveil spirituel. La lecture publique de la Torah a provoqué un réveil spirituel, la parole publique. Donc, le premier jour du septième mois, la lecture de la Torah a été faite publiquement. C'est devenu, pour le peuple rassemblé, un nouveau départ, vraiment un nouveau commencement. C'est vraiment ça le sens. Et à partir de cette époque, ce matin, c'était étonnant. C'était étonnant parce que, vous voyez, on est une église un peu bizarre. C'est-à-dire, on pourrait dire, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et pourquoi pas? Et Dieu bénit aussi. Mais parfois, il y a mieux à dire. Il y a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Et alors, parfois, ça dérange un peu. Parce que parfois, on aimerait nos repères, on aimerait pouvoir dire, tiens, là, je peux ronronner dans l'église de telle heure à telle heure, là, c'est tranquille, là. Mais non, c'est jamais tranquille ici. On veut s'arrêter, on veut chanter, puis tac, tout d'un coup, c'est longtemps prophétique d'intercession. Oh, ben mince, alors, c'était pas prévu. Mais Dieu nous bouscule, et nous sommes rentrés dans un temps, vous allez voir, c'est tout à fait étonnant, parce que, par exemple, la parole de Vito, qui est le vêtement de deuil ôté, c'est vraiment cette période de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, l'année ancienne est passée, avec Yom Kippour, on va rentrer dans quelque chose de nouveau. Le deuil est fini. Nous sommes dans une période qui parle de cette parole qui a été dite ce matin. Donc, ce qui est étonnant, c'est que on ne veut pas rentrer dans des traditions, vous voyez, mais Dieu nous fait rentrer, sans qu'on le veuille, dans un calendrier, dans une tradition, dans un souvenir et dans un alignement avec le peuple de Dieu. C'est absolument étonnant. Donc, il y a un mot bizarre dans la fête de Rosh Hashanah, c'est le terme la teshuvah. Vous avez déjà entendu ça, la teshuvah? La teshuvah. La teshuvah, c'est le retour qu'accomplit le peuple juif vers la Torah. C'est ce mouvement, le cœur qui, hop, on retourne vers la Torah. On revient à la parole de Dieu. C'est un impératif qui concerne les individus et aussi la société entière, le pays tout entier. Donc, ça implique quoi ce retour? Ça implique un temps chez les Juifs, qui est le temps maintenant qui va démarrer, un temps d'introspection. C'est pas qu'on va chercher ce qui va pas, mais on fait le point. C'est un temps, on fait le point. On fait le point, et moi ça me rappelle ce psaume 139 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est le caractère du chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'indécision sans arrêt, mais même avec des convictions, on se remet en question. Montre-moi, Seigneur, ce que j'ai vécu l'année passée, les obéissances que j'ai faites, mais peut-être ce n'est pas la même chose cette année. Alors montre-moi si je suis sur la bonne voie. Et si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a cette humilité qui est le caractère du chrétien qui permet à Dieu de le guider. Nous ne sommes pas un peuple de principes. Nous ne sommes pas un peuple de la loi. Et c'est comme ça. Nous sommes un peuple qui se laisse guider par l'Esprit. Et ça demande beaucoup plus d'exigences. Ça serait facile s'il y avait des recettes à appliquer. Le christianisme, ce n'est pas un livre de recettes. On est toujours dans cette dépendance de Dieu. Et le retour annuel du peuple d'Israël vers Dieu, c'est formidable. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. La parole de Dieu, c'est un miroir. Rappelez-vous ce qui était à la célébration hier, on a lu 1 Corinthiens 13. Quand on est devant ce texte, ça fait le miroir. Ça fait le miroir sur notre amour à nous. Et tout d'un coup, ça nous défie. Et puis on se dit, mais on n'est pas capable, Seigneur. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça stimule la foi pour chercher cet amour dans le cœur de Dieu. Donc, la teshuvah, c'est ce mouvement. Je lis l'actualité maintenant que j'ai lu il y a deux jours, écoutez ça. Le secrétaire général de l'ONU à New York. Je vous lis le texte, c'est récent, ça s'est passé avant-hier. Le secrétaire général de l'ONU et des dizaines d'ambassadeurs du monde entier ont participé samedi, donc oui, en fait, c'est un peu samedi, à l'événement du Tachlik. Alors, je ne sais pas si c'est hier, enfin, je l'ai vu hier, là. Alors, je ne sais pas si c'est samedi d'avant ou hier. Cérémonie, selon la coutume juive, visant à se libérer symboliquement des péchés de l'année écoulée au siège des Nations Unies à New York. Antonio Guterres et les autres ambassadeurs ont ainsi assisté à l'événement organisé par l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Danny Danon, et la Coalition européenne pour Israël, sur les rives de l'East River à New York, en l'honneur de Rosh Hashanah. Le discours, je cite, « Avec le début de la nouvelle année juive, l'ONU entame également une nouvelle année. Nous espérons que l'ONU participera à Eshon Anachef, examen de conscience, hein, faisant un bilan de ses actions de l'année précédente, a déclaré l'ambassadeur Danon au début de l'événement. Tachik est une opportunité pour les Nations Unies de tourner son regard vers l'intérieur et de procéder à un examen de conscience. » Dans la tradition juive, c'est pratiqué l'après-midi de Rosh Hashanah, donc cet après-midi, qui consiste à jeter des bouts de pain dans une rivière, un lac, à la mer ou à l'océan, afin d'envoyer ses péchés au large à partir d'un point d'eau courante. Ainsi, les ambassadeurs des Nations Unies, ils ont fait ce geste. C'est incroyable. Un bout de pain, ils ont jeté dans... Il faut que ce soit une eau courante. Et c'est la symbolique de la Bible qui dit « Jetez tes péchés au loin ». Et donc, ils ont fait ces gestes, ces dizaines d'ambassadeurs, et ils ont béni ensemble l'État d'Israël pour la nouvelle année hébraïque. Donc, je voudrais profiter, dit-il, le secrétaire des Nations Unies a dit ceci, je voudrais profiter de cette occasion pour donner ma bénédiction au peuple juif. Voyez. Et ensuite, il a continué, sans l'inspiration juive et sa contribution à la création de l'ONU, il n'y aurait probablement pas d'ONU aujourd'hui. Ce moment qu'on vit est un moment pour la réévaluation et voir où nous avons failli à nos engagements. Et donc ça, il y a quelque chose qui se passe. Je ne connais pas ce nouvel secrétaire général des Nations Unies, mais c'est quelque chose. Je termine, je ne vais pas être long. La fête des chauffards, ça rappelle aussi, c'est l'anticipation du grand jubilé. Le grand jubilé de Dieu. Et on trouve ça dans Ésaïe 27, Matthieu 24, les trompettes, il enverra les anges au son de la trompette. Le Nouveau Testament parle de ces trompettes qui parlent du jubilé. Et ça nous, dans Lévitique déjà, fait retentir les sons éclatants de la trompette. Vous publierez la liberté dans le pays pour les habitants, ce sera pour vous le jubilé. Et un peuple, le peuple que nous sommes pas seulement appelés à être libérés de nos péchés. Parfois, on peut passer une vie chrétienne en disant la même prière tous les dimanches, « Merci Seigneur, tu m'as lavé de mes péchés. » C'est très bien, ça commence par là. Mais Dieu voudrait nous faire aller plus loin et faire des gens qui proclament sur le pays la liberté, la guérison, au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos personnes, proclamer la guérison et l'alignement et la rédemption et une année de grâce. Et Jésus, quand il est arrivé à Nazareth, il démarre le ministère en lisant Ésaïe 61, ça parle de ce jubilé. Il est celui qui inaugure le véritable jubilé. Ça veut dire que nous sommes au contact de celui qui est le jubilé. Mais ce jubilé, il doit être parlé. On doit parler la liberté. On doit la prophétiser. L'année jubilaire, c'est le repos de la terre. Pourquoi ? Pour qu'on se rappelle que la terre appartient à Dieu. Et donc, ce repos de la terre qui est là, les hommes ne sont que des gestionnaires. Libération des esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, libérer les esclaves ? C'est libérer les offenses et nos définitions sur nos frères et sœurs. Tout ce qu'on a enfermé sur nous-mêmes aussi. Dieu dit maintenant, tu lâches. C'est une nouvelle année, tu lâches. Il y a parfois des gens qui peuvent, on peut prier tout ce qu'on veut par rapport à la maladie. Et parfois, j'ai vécu plusieurs fois dans le ministère, un non-pardon bloque tout, mes amis. Tu peux faire toutes les onctions d'huile que tu veux. Tu peux prier, tu peux jeûner. S'il y a un non-pardon, même Dieu ne touche pas. C'est impressionnant. Et Dieu nous dit en tant qu'Église, voilà, on fait le point. Est-ce qu'il y a un non-pardon dans ta vie ? Est-ce qu'il y a une offense encore dans ta vie ? Est-ce qu'il y a encore un jugement sur quelqu'un ? Et Dieu dit, c'est Rosh Hashanah, tu libères les offenses, c'est le jubilé. Tu libères les offenses, tu libères les esclaves. Et puis, c'est donc aussi la remise des dettes, on remet les compteurs à zéro. Donc Dieu efface nos dettes et on doit les effacer. C'est aussi cette symbolique. Il y a le pardon, je libère les offenses, je respecte la terre. Tout ça, c'est Ésaïe 58 qui a été dit par quelqu'un. Le jeûne auquel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté. C'est le jubilé inauguré par Jésus. Donc voilà, je rappelle de la journée que nous vivons aujourd'hui. C'est une journée de Rosh Hashanah. On se rappelle du Dieu créateur. On sonne de cette trompette qui nous rappelle Dieu Jéhovah qui pourvoit pour nous et Dieu qui pardonne et qui nous dit maintenant libère les offenses. Lévitique 25, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Et nous la France, qui nous appelons le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, nous sommes les seuls à pouvoir amener une véritable liberté au nom de Jésus. Et nous avons à la proclamer sur ce pays, publier la liberté, la vérité rend libre. Et nous avons une faveur de Dieu de pouvoir agir avec lui, cohériter avec lui, proclamant avec lui, parlant avec lui, agissant avec lui sur cette terre. Parfois, tu peux te dire, mais moi, je suis rien. Moi, je suis pas grand chose. Dieu te dit, tu n'es pas rien. Regarde, moi je te dis que tu n'es pas rien. Tu es mon fils, tu es ma fille. Et je t'appelle à les plus hautes destinées. Et ce que tu proclames sur ta région, sur ton village, sur ton travail, eh bien tu proclames une année de liberté. Et tu as reçu l'autorité pour le faire. Ça c'est vraiment, nous sommes un peuple absolument extraordinaire. Donc voilà, Rosh Hashanah, et donc le temps de Yom Kippour, l'église est alignée avec ce temps de jeûne et prière pendant 3 jours. Ça sera réannoncé par mail, mais on veut vraiment, comme on l'a vécu l'année passée, on sent que ces temps sont importants où on se réunit. Si vous ne pouvez pas venir, eh bien vous mettez un temps à part, c'est de 12h30 à 13h30. Il y aura des lectures bibliques à méditer ensemble et on s'aligne en tant qu'église. Clac, Yom Kippour, on fait le point sur nos vies, on libère les offenses et on proclame la liberté. Amen. Seigneur, merci pour Rosh Hashanah. Merci pour le jubilé que tu as inauguré en venant sur cette terre, Jésus. Et Seigneur, tu vis en nous et dans ton Église. Et merci parce que tu fais de nous des ambassadeurs de la liberté, de ce qui est dans le ciel, tu le fais venir sur la terre. Seigneur, merci parce que c'est vraiment pas par nos forces, mais nous sommes déterminés à nous aligner avec ta parole. C'est la fête de la Torah. Nous alignons notre cœur avec ta parole, Seigneur. Fais de nous, en tant qu'église charismatique, qui nous disons, remplis de l'esprit, un peuple de la parole, un peuple qui l'étudie, un peuple qui t'adore en étudiant cette parole. Merci, Seigneur, pour l'amour pour la parole que tu nous redonnes à chacun d'entre nous ici. Parce que tu veux bâtir dans nos vies un caractère qui est fort et qui peut être comme un phare et qui peut arrêter toutes les vagues des tempêtes. Merci Seigneur. Que ta bénédiction repose sur nous dans ces temps de Rosh Hashanah. Sur nos jeunes mariés aussi, que nous bénissons Carlo, Elisabeth. Nous bénissons aussi les futurs, Vincent, Clémentine. Nous appelons ta grâce sur l'Église, Seigneur. Et moi, je te prie que pendant cette absence qui vient, eh bien, toi, tu n'es pas absent, tu es présent. C'est toi le vrai berger, Seigneur, le grand berger. C'est toi qui prends soin. Et je te prie que pendant cette absence, il y ait des talents qui se lèvent. Il y ait des gens qui libèrent.